8 années de discussion entre un moine bouddhiste et un spécialiste du cerveau pour échanger sur la nature de l'esprit humain. Mathieu Ricard et Wolf Singer ont mis en commun le fruit de leurs expériences respectives pour tenter de répondre aux questions fondamentales que se pose l'humanité sur les émotions, la conscience, la réalité que nous percevons, l'ego ou le libre arbitre. Ils publient aux éditions Alary leur dialogue sur le cerveau et la méditation et viennent nous en parler dans un instant dans le dossier de la tête au carré. J'attends dès maintenant vos messages. Toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science cet après-midi, Axel, la multiplication des pandémies animales à l'échelle de la planète.
Et oui Mathieu, la grippe aviaire n'est malheureusement qu'un exemple de ces épizooties. Les épidémies animales qui se multiplient à l'échelle de la planète, on tente de comprendre pourquoi les animaux d'élevage sont de plus en plus malades avec l'infectiologue Thierry Pinault.
Voilà donc pour le sommaire de l'émission qui est réalisé par Stéphanie Texier et qui a été préparé avec Pierre de Certaine.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Cerveau et méditation, dialogue entre le bouddhiste Mathieu Ricard et le neuroscientifique Wolf Singer au cœur de notre tête au carré cet après-midi. Bonjour.
Bonjour
à tous les deux. Wolf Singer, depuis quand les neurosciences s'intéressent sérieusement à la question de la méditation au point de l'expérimenter en laboratoire?
Oui, je crois que ça fait à peu près une dizaine d'années.
Ouais.
Et on s'est intéressé parce que la méditation, ça engage le cerveau. Des processus cognitifs, et ça c'est un sujet qui intéresse les neurosciences.
Ouais, c'est très récent donc, hein?
C'est assez récent, comme la recherche sur la conscience en général, ça a été considéré comme pas sérieux il y a encore 20 ans.
Ouais.
Maintenant c'est devenu un champ très important.
Les choses changent. Mathieu Ricard, est-ce que vous avez le sentiment justement que l'éclairage de la science a permis de changer considérablement la perception que nous avons de la méditation aujourd'hui?
Oui, parce qu'au départ, la méditation, c'est faire le vide, relaxer sous un manguier avec des bâtons d'encens. Évidemment, c'est pas ça, la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Alors, depuis 10 ans, effectivement, il y a des travaux majeurs. Pas seulement, ça fait 20 ans que je commence déjà à explorer la question avec des amis neuroscientifiques, mais ça a pris de l'ampleur comme domaine d'étude il y a une dizaine d'années, effectivement.
Voilà, un ouvrage de discussion et dans lequel, justement, vous compilez un certain nombre d'études autour de la méditation. Études menées par les neurosciences. On va découvrir donc le fruit de vos échanges dans un instant avec les messages des auditeurs.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et les épizooties, ces grandes épidémies qui se multiplient dans l'élevage, sont aujourd'hui à la une de la science.
Un matin, 6 canards morts. Ouh, il y a un problème. 2 heures après, ouh, il y en avait 10 dizaines. Vite, on appelle le vétérinaire. Ouh là là, vite, vite, on fait l'analyse. Forcément, on fait l'analyse. Ouh, mais évidemment, positif. Et en attendant, eh bien, confiner les canards et ramasser les morts.
Voilà, extrait d'un reportage dans le GERS de Corinne Cutila, diffusé le 6 janvier dernier sur France Inter. Et depuis 30 ans maintenant, les agronomes, les éleveurs du monde entier remarquent une augmentation des grandes pandémies animales, qu'elles soient virales comme la grippe aviaire, bactérienne ou dues à des parasites. Pour comprendre justement les mécanismes qui favorisent ces pandémies, nous sommes en ligne avec vous, Thierry Pinault. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du département santé animale à l'INRA et dans ce studio avec nous, comme tous les lundis, Hervé Kempf. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu.
Avec le magazine Reporter.net, partenaire de notre Une de la Science. Hervé, la grippe aviaire qui sévit en ce moment dans le sud-ouest de la France, alors ça n'est qu'un exemple, hein, malheureusement, des multiples épidémies qui touchent le monde entier et le monde de l'élevage.
Tout à fait. Alors ça n'est qu'un exemple qui d'ailleurs n'est pas fini. Vous vous rappelez que la crise aviaire a démarré à l'automne dernier, a affecté les bons repas de décembre, si j'ose dire. Eh bien, ouais. Le virus H5N8 de la grippe aviaire est toujours actif. On compte encore 95 foyers en France et 1 million de canards vont être abattus pendant le mois de janvier. Mais ça ne se réduit pas à la France. On détecte aussi 724 foyers de grippe aviaire en Europe. On y en a aussi en Israël, en Égypte, en Russie, en Iran, en Ukraine. Donc là, on sent qu'il y a une vraie pandémie mondiale, en fait. Et même en Corée du Sud, où il y avait déjà eu un abattage extrêmement important, une alerte très grave en décembre, il y avait 16 millions de poulets et de canards qui avaient été abattus.
Incroyable.
Eh bien, les signes de la grippe aviaire continuent. Mmh. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que non seulement cette grippe aviaire est mondiale, mais comme vous l'avez dit et comme va le dire Monsieur Pinault, eh bien, c'est d'autres maladies animales qui se répandent à travers le globe.
Axel.
Thierry Pinault, depuis combien de temps on se rend compte que ces épizooties sont en augmentation dans l'élevage?
Alors, on s'en rend compte depuis peut-être, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, à mesure effectivement que les moyens de surveillance se sont rationalisés, se sont améliorés, que les méthodes de surveillance, elles aussi, se sont disséminées dans différents pays. Donc, on voit beaucoup mieux parce qu'on observe beaucoup mieux également. Et puis, il faut pas se voiler la face. On élève également à la surface de la planète de plus en plus d'animaux pour répondre à un besoin d'une population qui est avide de denrées d'origine animale. Donc dans tous les pays qui sont en émergence économique, on mange de plus en plus de denrées d'origine animale, que ce soit de la viande, du lait, des œufs.
Vous êtes en train d'y venir. Alors, quelles sont les causes de la multiplication des épidémies, si on devait en citer quelques-unes ?
Eh bien, l'accroissement, donc je l'ai cité, du nombre des animaux qui sont élevés, des populations d'animaux élevées, mais il y a également le problème que posent certains changements d'usage des terres, en particulier, vous imaginez bien que la déforestation dans certaines zones ouvre des brèches qui sont, pour les agents pathogènes, de nouvelles interfaces, finalement, entre faune sauvage, faune d'élevage et humain, donc des brèches dans lesquelles, finalement, des agents pathogènes issus de la faune sauvage peuvent entrer. On a également un paramètre qui est très important, qui est celui de l'extrême facilité désormais à se déplacer, nous humains, très rapidement, sur de longues distances, ainsi que de déplacer des denrées d'origine animale. Donc, en nous déplaçant ou en déplaçant des animaux ou des denrées, on peut également déplacer des agents pathogènes et ou même des éléments de résistance aux antibiotiques qui se propagent finalement un peu à la manière aussi d'une épidémie. On peut avoir également des pays qui deviennent, malgré eux, des maillons faibles dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies. Vous imaginez bien que dans des malheureux pays comme la Syrie, le Mali, la Libye actuellement, les services vétérinaires sont totalement désorganisés et ne peuvent plus remplir leur mission qui sont normalement coordonnées par l'OIE, qui est l'Organisation Mondiale pour la Santé Animale.
Est-ce que l'impact de ces maladies est différent selon le type d'élevage ? On pense à l'élevage intensif, l'élevage en plein air, l'élevage fermier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différences notables ?
Alors vraiment, je me garderais de conclure que c'est le système de production qui induit automatiquement un certain état sanitaire. Ce serait vraiment trop manichéen de conclure que l'intensif ou le bio serait vertueux par nature. Donc c'est plutôt la conduite de l'élevage qui va véritablement influencer sur l'état sanitaire. Donc de ce fait, c'est à la fois la compétence de l'éleveur, son attention, c'est l'art de l'éleveur que de garantir un bon état sanitaire.
Thierry Pinault, vous soulignez quand même par exemple l'importance des antibiotiques, et si on utilise maintenant beaucoup d'antibiotiques dans les élevages, c'est bien parce qu'il y a une industrialisation des élevages. Alors est-ce qu'il ne faut pas réduire les antibiotiques et donc changer les modes d'élevage ?
Alors, on peut à la fois réduire en conservant des modes d'élevage comme ceux que l'on connaît actuellement en Europe, et je vais vous citer quelques exemples, et puis il faut également considérer que les antibiotiques, c'est véritablement fait pour traiter les animaux quand il y en a vraiment besoin, et ça peut nous aider aussi à maintenir le bien-être des animaux, et il faudrait cesser à l'échelle planétaire de faire des mauvais usages des antibiotiques. Et vous savez à ce titre que l'Europe est la seule zone géographique à l'échelle de la planète qui interdit l'usage des antibiotiques en tant que promoteur de croissance.
Thierry
Pinault, comme les États-Unis continuent de les utiliser, et le sud-est de l'Asie est très très demandeur en antibiotiques actuellement.
Ouais, on a du mal quand même à associer les deux termes bien-être animal et élevage intensif, hein, si vous permettez.
Alors, j'ai pas voulu faire l'association obligatoire, hein, mais je vous disais que, par exemple, en Europe, des pays comme les Pays-Bas, sans changer leur filière de production, ont réduit en 5 ans de 50% la quantité d'antibiotiques qu'ils ont utilisés. Le Danemark a suivi. En France, avec le plan Eco-Antibio 2017, en 5 ans, c'est une réduction de 25%. Et pourtant, la productivité globale à l'échelle de ces pays a été maintenue. Donc c'est bien la preuve qu'on peut, par des comportements vertueux, en faisant très attention aux prescriptions, on peut réduire tout à fait considérablement les usages d'antibiotiques, et je crois qu'il faut vraiment poursuivre sur cette voie.
Une autre question en lien avec l'élevage intensif, mais un peu loin de l'antibiorésistance. Est-ce que l'appauvrissement de la diversité génétique des animaux d'élevage peut être une cause à invoquer pour l'augmentation de ces maladies?
Oui, oui, oui. Le fait que certaines races sont devenues en matière de robustesse naturelle sous-optimales vis-à-vis de certains pathogènes peut être une conséquence et un effet des schémas de sélection au long terme. Et donc, actuellement, nous avons vraiment des programmes de recherche pour réinsuffler dans des races animales de production de la robustesse naturelle. Et ce sont dans les races anciennes ou les races qui sont préservées, et Dieu sait si en France nous avons accès à ces races, que nous essayons de trouver des éléments pour booster, pour doper l'immunité naturelle des animaux vis-à-vis des agents pathogènes auxquels ils sont confrontés. Donc ça, c'est véritablement un objectif de sélection en agronomie pour le futur, que de réintroduire une robustesse naturelle dans les animaux d'élevage.
Mathieu Ricard, que la question animale intéresse évidemment.
Si vous avez, comme c'est souvent le cas aux États-Unis, 100 000 poules dans un grand local qui est géré par 30 personnes, chaque poule a à peu près l'équivalent d'une feuille A4 pour même pas se déplacer, qu'on leur cautérise le bec au fer rouge, parler de bien-être animal, c'est un peu un euphémisme.
On est d'accord. Hervé, pour terminer.
Quand même, est-ce qu'il n'y a pas une évolution des modes de production agricole à envisager? C'est la question quand même qu'on se pose au vu de cette multiplication de maladies.
Thierry Pinault.
Alors, il y a des évolutions à envisager, à la fois sur les modes de production, à la fois également sur nos capacités à surveiller, à détecter très précocement les pathologies pour mieux les circonscrire avant qu'elles ne se diffusent, qu'elles ne diffusent. Il y a tout un pan des recherches, en particulier en partenariat avec l'industrie actuellement, qui se développe et qui consiste à analyser automatiquement le comportement ou certains comportements des animaux pour détecter extrêmement précocement les premiers troubles comportementaux qui peuvent signer le début d'une infection et donc gérer les animaux malades ou gérer tout le cheptel.
Merci Thierry Pinault. Et puis donc un dossier à retrouver dans reporter.net, sur reporter.net exactement, Hervé Kempf. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Et Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, policiers, marins, ingénieurs des mines, autant de métiers fermés aux diabétiques en France. C'est ce que dénoncent cette semaine deux associations de patients. Marc de Cardanet, médecin et président de l'association des jeunes diabétiques, s'oppose à ces restrictions qu'il estime datées et en inéquation avec le quotidien actuel des malades. En effet, de nouveaux outils comme les pompes à insuline ou les capteurs de glucose en continu permettent aujourd'hui à nombre de diabétiques de mener une vie quasi normale. Les associations désirent donc que les professions interdites soient réévaluées chaque année selon les évolutions technologiques et médicamenteuses. Des scientifiques, nous, le plus petit nœud du monde. C'est l'exploit réalisé par une équipe de l'université de Manchester avec une chaîne de 192 atomes d'une longueur de 20 nanomètres, donnant lieu donc à une sorte de pièce de macramé à l'échelle atomique. Pour cela, ils ont développé une nouvelle méthode de tissage auto-assemblée de molécules d'oxygène et de fer autour d'un ion chloride. À terme, les chercheurs anglais espèrent que cette technique permettra de tresser des fils moléculaires et ainsi créer de nouveaux types de matériaux plus résistants, légers et flexibles. Et puis l'origine de la pollution atmosphérique de Pékin décryptée après des années d'études de l'atmosphère de la métropole. L'Institut chinois des physiques atmosphériques publie son analyse sur la formation des smogs, ces nuages de pollution qui stagnent régulièrement au-dessus de la capitale. Ces pics de pollution seraient dus à une combinaison de facteurs, l'arrivée de fumées industrielles qui bloquent l'évacuation des gaz d'échappement des véhicules de la capitale, formant une dangereuse accumulation. Pour peu que l'atmosphère soit trop humide, bien les concentrations de polluants explosent. Une vidéo d'ailleurs impressionnante de l'arrivée du smog sur Pékin est à voir sur la page Facebook de la Tête au Carré. Cerveau et méditation dans un instant, notre dossier pour bien commencer la semaine. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations, I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me.
this is new to you. Initially, I didn't wanna fall, but you gathered my attention. It was all for you. So don't take advantage. Don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location? Let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off of some tweet, so let's get personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this 'cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, 'cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's find the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you.
I don't need nothing else but you.
Ride, 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 come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you.
Khalid avec Location à l'instant sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Cerveau et méditation, dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences. Ce livre donc qui paraît aux éditions Alary, signé par nos deux invités, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, le neuroscientifique Wolf Singer, neurobiologiste, directeur émérite à l'Institut Max Planck pour la recherche sur le cerveau. Et donc les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Je le disais tout à l'heure, 8 années donc d'un dialogue sur le fonctionnement de l'esprit, en confrontant vos expériences et vos opinions d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas d'accord sur tout. Tout a commencé à Londres en 2005, Mathieu Ricard, c'est ça, autour d'un premier dialogue sur le thème de la conscience.
La conscience et des vibrations, je ne sais pas trop bien. Et puis voilà, ça a continué, on s'est retrouvés 2 fois 15 jours au Népal, dans une jungle en Thaïlande, à la maison des écrivains à Francfort.
À Francfort, oui, chez Surkamp.
Qui était la maison où Hermann Hesse avait écrit, on était très flattés.
La conscience et les vibrations.
Oh, c'était le thème au départ, mais enfin surtout c'était l'occasion de se rencontrer.
On s'est rencontrés là.
Et donc ce dialogue s'est poursuivi jusqu'à la naissance de ce livre. C'était quoi l'idée au fond pour vous, Wolf Singer ? C'était de pouvoir aussi confronter réellement les études scientifiques à la réalité de la pratique
Oui, pour moi c'était la curiosité épistémique. Je voulais savoir si ce qu'ils ont appris sur le cerveau par l'introspection et par l'intuition et par ces pratiques de méditation correspondait à ce qu'on trouve chez nous à la troisième personne perspective de l'extérieur et voir s'il y a des complémentarités, s'il y a des différences. Et en plus, comme ça sent les méditateurs...
Les méditants.
Excusez-moi si je fais des fautes. Les méditants sont quand même des experts de la cognition. Et comme cette tradition est très, très ancienne, c'est 2000, 3000 années...
C'est ça.
On avait espéré que peut-être ils ont trouvé... des phénomènes psychologiques, des phénomènes de conscience qu'on n'a pas encore décrits chez nous et pour lesquels il faut peut-être trouver un corrélat neuronal. Donc leur taxonomie, si vous voulez, les Esquimaux, ils ont 50 mots pour le blanc parce que ils s'occupent de ça tout le temps. Comme ça, il y avait la possibilité que les méditants auraient peut-être 50 mots pour des états de conscience. Et peut-être on serait bien conseillé de prendre ça au sérieux et voir si la science ne peut pas profiter de cette taxonomie raffinée.
Ouais. Alors justement, Mathieu Ricard, vous rappelez quand même dans le livre que finalement le bouddhisme a une part scientifique liée à son expérience empirique, tout simplement.
Hein. Souvenez, moi, en tant qu'ex-scientifique de l'Institut Pasteur, ce que ça m'a donné de passer 6 ans avec François Jacob, c'est le goût de la rigueur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vise la science? C'est de combler le fossé entre les apparences et la réalité. Et le bouddhisme, on dit que c'est exactement la même chose. C'est une approche soi-disant empirique, mais le domaine d'investigation est la suite de la conscience. Mais il n'y a pas de croyance. La croyance, c'est de croire à quelque chose parce qu'on n'a aucune preuve. Et la croyance aveugle, c'est de croire en des choses pour lesquelles il y a des preuves contraires. Bon. En tout cas, dans notre échange, ce qui était intéressant, c'est que d'emblée, il y avait aussi des choses où on s'est dit, tiens, c'est à peu près la même chose. Par exemple, la notion qu'il n'y ait pas de poste de contrôle dans le cerveau correspond très bien à l'idée de l'absence de moi en tant qu'entité unitaire, autonome, mais plutôt un flot dynamique d'expérience. Tout de suite, on s'est dit, tiens, ben ça se ressemble drôlement.
Ouais, et comment vous expliquez justement que la science et le bouddhisme arrivent aussi bien à dialoguer, alors que généralement, science et religion ne font pas forcément bon ménage quand même?
Ben, si vous dites que l'univers a été créé en 6 jours, vous avez un problème avec la science. Dans la mesure où le Dalai Lama a dit la cosmologie bouddhiste ancienne, ben, c'est tout du pipeau. Ben, du coup, les gens, ben oui, bon, d'accord. Par contre, les effets de la haine, de l'animosité, de la jalousie, la façon de regarder de façon introspective l'esprit, je veux dire, a priori, pourquoi ne pas tomber d'accord ou ajuster nos opinions en fonction de l'expérience.
Mais le bouddhisme, ce n'est pas une religion propre.
Il n'y a pas de dogme, véritablement.
Ouais. C'est une sorte de philosophie, c'est une vue sur le monde.
C'est aussi un chemin de transformation pour se libérer des causes de la souffrance. Donc, c'est très pragmatique, finalement.
Oui. C'est ça l'idée, au fond, d'abord, de la méditation aussi. C'est de se libérer de la souffrance.
La méditation, c'est un outil, parmi d'autres, pour effectuer cette transformation de l'ignorance à la connaissance, de la souffrance à la liberté de la souffrance. C'est vraiment à la fois thérapeutique et aussi une façon d'approcher la connaissance.
Ouais. Justement, c'est une question de Paul qui nous demande sur franceinter.fr, Wolf Singer, si la méditation peut jouer un vrai rôle thérapeutique. Qu'est-ce que montrent les études là-dessus?
Bah, y a des études qui sont pas encore arrivées au bout, je crois, parce que c'est très difficile de faire de la science en comparant deux groupes différents, comme des gens soi-disant normaux et des méditateurs
expérimentés.
Ouais. Parce que il peut y avoir des causes du début qui font qu'une partie ne commence jamais à méditer et l'autre partie opte pour ce chemin. Donc ça, c'est très difficile à contrôler. Donc les études qu'il faut sont des études qu'on appelle des études longitudinales, qu'on commence avec un groupe de contrôle. On les engage en pratique méditation et on regarde au fur et à mesure qu'ils progressent s'il y a des changements dans le cerveau, s'il y a un changement de caractère, de comportement. Et ça sont des études qui viennent de commencer seulement.
Ah oui, donc vous êtes très réservé quand même aujourd'hui pour dire que les effets thérapeutiques sont avérés.
Il y a certainement l'évidence aussi subjective des gens qui pratiquent qu'ils se sentent plus relax. Après avoir pratiqué, qui se sentent mieux. Mais vraiment, une évidence scientifique dure qui vraiment contrôle des groupes qu'on peut comparer, il n'y en a pas tellement encore.
Ouais. Ah, ça c'est la rigueur scientifique absolue. Oui, hein. Même, parce que Mathieu Ricard, il y a quand même des choses.
Il y a quand même environ 800 publications par an dans le domaine clinique. C'est-à-dire on comprend quand même deux groupes, un qui pendant 3 mois fait la médiation de réduction du stress par la pleine conscience et un groupe contrôle qui n'en fait pas. Donc là, malgré tout, on trouve des différences. Le problème, c'est quel est le facteur actif dans le groupe d'intervention. Donc il faut un groupe contrôle qui est aussi un facteur actif. On doit leur faire faire des choses intéressantes avec des instructeurs qui sont sympathiques pour pas que ça soit simplement l'effet de s'engager dans une pratique quelconque.
Ouais. Et pourquoi on peut pas pratiquer alors ces expériences?
Si on le fait. Ouais. Mais il y a quand même, je crois que Wolf a des critères très élevés.
Oui. Non, je crois qu'il y a quand même des évidences qui sont robustes. Par exemple, et ça c'est plutôt sur le plan comportemental que sur le plan neurobiologique, ceux qui méditent, qui pratiquent beaucoup, ils ont des mécanismes d'attention beaucoup plus efficace.
Ouais.
Aussi, la dégradation de l'attention avec l'âge, ça se fait plus lentement chez les méditants. Ça, je crois, c'est assez robuste. Il y a aussi l'évidence qu'il y a certaines modifications morphologiques, donc des structures du cerveau, quand on médite, ce qui n'est pas très surprenant, parce qu'on a aussi des modifications dans les structures cérébrales quand on apprend à jongler ou apprend à faire du ski ou exercer n'importe quoi, aussi le violon ou le piano. Parce que toujours quand on engage certains nerfs dans le cerveau avec d'une tâche très exigeante, il y a un changement neuronal. Oui. Ça accompagne l'apprentissage. Et comme la méditation, et ça c'était nouveau pour moi, est un processus qui demande beaucoup de contrôle cognitif, beaucoup d'attention. On engage des aires qui s'occupent du contrôle de l'attention, et c'est là où on voit des changements.
Oui, donc ça, vous l'observez bien, effectivement.
Oui, là on a vu aussi des changements dans le comportement prosocial, quand la méditation est fondée sur la bienveillance, l'altruisme ou la compassion.
On en reparlera avec vous, évidemment. On va écouter un extrait d'un documentaire auquel vous avez participé, qui s'appelle « Vers un monde altruiste », Mathieu Ricard, Sylvie Guillemin et Thierry de Lestrade. C'était sur Arte, et un documentaire qui a fait beaucoup d'audience, d'ailleurs.
Ok, donc on commence maintenant un bloc de Lou Matin, une minute, qui sera suivi par 2 minutes et demie de méditation mantra avec Crozer. On commence maintenant.
Les chercheurs observent sur les écrans une augmentation de l'intensité des ondes gamma. Ils constatent également de grandes différences dans les zones de la régulation de l'attention et des émotions. Le cerveau des méditants est modifié en profondeur.
C'est très très rare de faire une expérience en laboratoire et de voir à l'œil nu une modification des signaux du cerveau. Avec Mathieu, c'était boum! Nous avons été capables de voir en direct, à l'œil nu, sur les écrans, pendant qu'on enregistrait. Et la première chose que nous avons pensé, c'était que l'équipement devait avoir un problème.
La découverte est extraordinaire. Une activité purement mentale est donc capable d'induire des changements structurels et fonctionnels dans le cerveau.
Et avec vous, Mathieu Ricard, ça fait boum, donc on a compris.
Oui, il faut pas exagérer quand même.
Ah ben, par rapport à une personne lambda, apparemment, votre pratique montre des choses à l'imagerie, hein, très particulières quand même. Hein.
Disons, à force d'en faire, je crois que tout le monde peut arriver au même résultat. Ce qui est intéressant de voir, parce que pour la société, parce que faire 50 000 heures de méditation, bon, on ne va pas conseiller ça à tout le monde.
Oui.
Par contre, si effectivement, 20 minutes par jour, au bout de 6 mois, ça fait une différence notable dans votre comportement et votre manière d'aborder l'existence et de vous relier aux autres, là, on pense qu'il peut y avoir une contribution à la société qui est utile.
Ouais, et d'ailleurs, Wolfinger, vous dites qu'il faut, comme le service militaire, imposer 2 ans de méditation à tous les individus de la planète.
J'ai dit ça peut-être un jour, oui.
Ah ben vous l'avez écrit, c'est dans l'ouvrage.
Ben, c'est certainement utile d'entraîner la possibilité de se concentrer hein, dans tous les domaines de la vie, parce que l'apprentissage, ça dépend de l'attention, de possibilité de se concentrer. Donc, à l'école, à l'université, dans la journée des travailleurs, ça serait bien d'interpeller des moments de calme, de concentration. Et c'est pour ça que, oui...
On entendait parler des ondes gamma dans l'extrait du documentaire. Alors ça, c'est quelque chose qui vous concerne de très près, ces ondes.
Oui, ça me concerne. On les a découvert il y a 30 ans, presque déjà maintenant.
C'est quoi exactement les ondes gamma
c'est des fréquences d'oscillation de l'activité cérébrale.
Ouais.
On peut enregistrer ça avec des électrodes, soit chez l'homme d'électroencéphalographie ou magnétoencéphalographie, et chez l'animal, évidemment, avec des électrodes intracrâniennes.
Donc c'est très précieux de les localiser pour pouvoir justement voir comment fonctionne le cerveau.
Oui, il paraît que c'est un signal qui est produit par des réseaux neuronaux quand ils s'engagent dans des tâches spécifiques, surtout quand il y a l'attention dirigée vers cette tâche.
Oui.
Là, les neurones s'engagent dans un rythme de à peu près 40 Hz. Et maintenant, c'est devenu un rythme très important dans les neurosciences. Et surtout... parce que le cerveau est capable de synchroniser ces rythmes à distance. Par exemple, les deux hémisphères ils peuvent s'engager dans un rythme de 40 Hz. Et au fur et à mesure que les deux hémisphères commencent à travailler ensemble, il y a une synchronisation entre les deux hémisphères. Donc, et ça, c'est un rythme que Richie Davidson a découvert d'être augmenté pendant la méditation.
Oui. Et donc les ondes gamma de Mathieu Ricard réagissent seul, hein. Autrement
bah, il est, pendant il la méditation. Il est expert en les contrôlant. Oui. Il peut les augmenter, il peut les décroître, tandis que des gens normaux, des gens non pratiquants, ils les produisent, mais ils savent pas quand.
Oui. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de la méditation et du cerveau.
Marche-t-il à l'envers, ou est-ce moi qui compte un repos? De quoi se fait ces fous? Des girouettes en trombone, leurs lèvres se dédoublent sous le papier carbone. J'ai peur quand ils rient, je pleure quand ils jubilent, et la sueur sur le front m'effraie. J'éteins les écrans, fermé les yeux.
Et les écrans avec Miss Sparrow à l'instant sur France Inter. Mathieu Ricard, Wolf Singer, mes invités cet après-midi autour de ce livre Cerveau et méditation, dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences aux éditions Alary. Et les questions des auditeurs qui arrivent nombreuses, je vous les soumettre dans un instant. Un mot, Wolf Singer, quand même pour vous qui êtes scientifique. Est-ce que lorsqu'on veut étudier le cerveau qui médite, on doit pratiquer soi-même la méditation pour mieux comprendre comment ça fonctionne?
Non, absolument pas.
Vous n'avez pas du tout médité?
Moi, j'ai médité par curiosité. J'ai fait une pratique de 15 jours en méditation zen. C'était une pratique très, très dure. C'était 8 heures par jour devant un mur blanc.
C'est le zazen, en fait.
Zazen, oui.
C'est ça, la position assise.
Sans parole et sans regarder dans les yeux des autres.
Ah, vous avez commencé fort, quand même. D'emblée, comme ça, 15 jours.
Oui, comme ça.
Ah oui. C'est peut-être pas ce qu'on peut conseiller à tout le monde, Mathieu Ricard, pour aborder la méditation.
C'est comme si on essaie de commencer à naviguer un jour de tempête.
C'est ça. Ils m'ont déconseillé, mais j'avais pas le temps de faire autrement, alors.
C'est vrai. Il s'est passé des choses pour vous pendant ces 15 jours?
Oui, absolument.
C'est vrai?
Au bout de 3-4 jours, j'ai commencé à voir que ma cognition changeait, et comme je suis neurobiologiste, je pouvais l'interpréter. Ce qui n'a pas intéressé mon instructeur, parce qu'il dit ça, c'est pas important, il faut faire autre chose. Mais moi, ça m'a quand même fasciné. Par exemple, j'ai appris d'engager en même temps mes deux systèmes visuels. Il y a un système visuel qui s'occupe de la haute résolution et l'autre qui analyse les mouvements. Et moi, au bout de 3-4 jours, je suis arrivé à les engager simultanément. Je pouvais avoir la haute résolution et voir les mouvements en général. C'est ce qu'il appelle...
Le...
Ouais. Impressionnant, on est très impressionné.
Oui, oui, on peut l'observer en regardant un tas de fourmis. Parce que là, il y a des microstructures et aussi des flots de mouvements. Ouais. Et normalement, ça alterne.
Et ça ne vous a pas donné envie de continuer un peu plus hein?
Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de discipline.
Ah, c'est pas un argument, ça, le temps. Hein.
Non. Mais j'ai l'impression que je sais maintenant ce que ça fait. Et souvent, quand je voyage, je me mets dans ces états-là. Je le retrouve facilement maintenant, comme c'est devenu un ami. Ouais.
C'est très bien dans les avions quand il y a des turbulences, d'ailleurs la méditation, hein, ça aide à se sentir beaucoup mieux en général. Mathieu Ricard, il faut être bien accompagné quand on médite, au début en particulier.
Il y a d'excellents livres de vulgarisation et d'introduction à la méditation. Enfin, c'est comme si vous vouliez apprendre à naviguer ou à faire de la haute montagne sans un guide. Pourquoi ne pas bénéficier de l'expérience de personnes qui ont vraiment acquis une expérience profonde? C'est un peu bête, quoi. C'est une preuve d'un tout petit peu de vanité, disons. Donc, si on a la possibilité, bien sûr, avoir un enseignant un peu authentique.
Mais est-ce qu'on peut faire des erreurs et mal méditer?
Oui, on peut forcément, comme tout, si vous voulez, vous pouvez vous bloquer dans des trucs complètement, des voies de garage en quelque sorte, et perdre du temps. Et parfois même, si vous n'êtes pas très équilibré psychiquement, ça peut aggraver vos symptômes.
Oui, donc attention. Ginette nous dit, la méditation semble être l'objet d'un effet de mode, sans doute dû au stress ambiant, mais des actions individuelles comme la marche, peut-être la course à pied ou le vélo, ne peuvent-elles pas aboutir à des effets absolument semblables?
La marche, ou tout exercice physique d'ailleurs, active l'hippocampe dans le cerveau, et la méditation fait de même. Donc tout entraînement, on sait que l'exercice physique est un antidote, à la fois, ça favorise la bonne santé physique et mentale, un antidote à la dépression par exemple. Donc bien sûr, mais disons la méditation, son but quand même, c'est qu'elle est quand même, elle a un but très spécifique, c'est pas simplement justement s'engager dans une activité régulière, il y a aussi l'idée de cultiver des qualités fondamentales, que ce soit l'attention, que ce soit la bienveillance, ça ne va pas se développer tout seul. Donc il faut faire des efforts spécifiques, ça ne vient pas comme un sous-produit d'autre chose.
Regardez Sandra qui nous envoie ce message. Je suis professeur d'histoire, dit-elle, et j'ose pratiquer la méditation avec mes élèves de terminale. Ils sont 36 dans sa classe depuis octobre pour les aider à se concentrer en cours. Ils sont très bruyants, dit-il, et ça marche, mais je manque d'exercice à leur faire faire. Des idées, demande-t-elle. Alors d'abord, effectivement, avec un groupe d'élèves, ça c'est intéressant,
oui.
Wolfinger.
Hein. Il y a des expériences comme ça et ça marche très bien. J'ai dit l'autre jour, autrefois, quand on commençait une journée d'école, on s'était assis et on a fait une prière. Et c'était du calme pendant 5 minutes. Ça se fait plus, mais on peut, dans un monde laïque, on pourrait le remplacer par des exercices de concentration. Amener un objet, le fixer, le regarder, ne pas bouger, ne pas parler, et va faire venir et disparaître des idées.
Oui. La capacité d'attention, donc comme disait Mathieu Ricard, extrêmement important. Le processus de mémorisation aussi.
Oui.
Et la qualité des relations aussi entre les élèves et avec le professeur, c'est aussi un effet qu'on remarque dans ces cas-là.
Oui. Donc tout ça a été observé et validé par les expériences aussi.
Mais je crois que ça tombe sous le sens que ça marche. Là, il ne faut pas faire des expériences, il faut le faire.
Ouais. Justement, sur le travail des émotions, alors là, c'est aussi quelque chose de très important hein, dans le cadre de la méditation Mathieu Ricard. Nos émotions qui sont quoi? Plutôt mauvaises conseillères pour vous ou pas?
Il y a des émotions qu'on pourrait appeler destructrices qui augmentent, qui obscurcissent votre esprit, c'est-à-dire qu'il y a une distorsion de la réalité. Hein, si vous êtes en proie à la haine ou à un désir obsédant, vous voyez les choses comme 100% haïssables ou 100% désirables, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a un aspect obscurcissant et c'est un mauvais conseiller. Mais vous avez aussi des émotions comme la bienveillance, qui sont au contraire, facilitent à la fois l'accomplissement du bien d'autrui et le vôtre. Donc il faut distinguer les différents types d'émotions. Quels sont leurs effets? Donc quand on parle d'émotions positives et négatives, c'est pas aller vers ou éviter, c'est quels sont les effets en termes de bien-être pour soi et pour les autres.
Mais Wolfinger, justement, vous posez la question dans le livre à Mathieu Ricard, vous dites, mais les émotions négatives, elles ont un rôle aussi à jouer au fond.
Oui, là, on n'était pas toujours d'accord, parce que oui, les émotions négatives... sont très importants pour survivre, la peur, aussi quelquefois une émotion d'agressivité, c'est pour se défendre. Je crois que aussi des émotions positives obscurent la réalité autant.
C'est-à-dire
on parle bien de la maladie d'amour, quand on est vraiment
amouraché. Mais ça, pour nous, c'est une émotion négative.
Pour moi, l'amour, c'est un sentiment positif et on sait quand même que ça n'aide pas à voir la réalité comme elle est.
Et pourtant, j'ai lu dans votre livre que l'amour était l'émotion suprême, Mathieu Ricard.
Si vous voulez, quand on parle d'amour, si c'est principalement la bienveillance, le sentiment de résonance positive avec autrui, c'est l'émotion suprême. Si l'amour se mêle d'une bonne dose d'attachement et que c'est plutôt qu'on s'aime soi-même au travers de l'autre, donc tous ces mots-là, ça dépend de ce qu'on met dedans. La colère, bien sûr, est nécessaire pour surmonter des obstacles, empêcher des choses qui vont nous nuire. Mais si ça se transforme en haine, alors ça devient négatif. Si c'est une indignation devant un massacre, c'est quelque chose de positif. Donc, sous une émotion, vous pouvez avoir des aspects destructeurs et des aspects constructifs. Dans ce sens-là, en fait, je suis assez d'accord avec... On est assez d'accord parce que l'évolution nous a équipés pour utiliser... Alors, Aristote disait, les émotions, la bonne émotion pour la situation donnée, avec le bon degré. Donc, oui. À partir du moment où c'est excessif et c'est une émotion qui est à porte-à-faux avec la réalité, du coup, ça a des effets négatifs.
L'affinement émotionnel, au fond.
Oui.
Il y a cette idée aussi.
Et voir les nuances et trouver les bons antidotes.
Wolfinger.
D'accord, c'est ce qu'on essaie de instruire nos enfants. Alors, l'éducation, c'est surtout leur apprendre de se comporter et de contrôler leurs émotions d'une façon qui aide à les faire à socialiser. Moi, j'aurais des problèmes si le but de la méditation, ça serait la neutralité, la distance envers tous les autres.
Ça, c'est une mauvaise interprétation.
C'est pas le cas. Contenu affectif. La haine, 100% débarrassons-nous, mais d'ailleurs, on voit bien avec les grands méditants comme le Dalai Lama, on peut pas dire que c'est quelqu'un qui ressemble à un légume. Il est extrêmement vivant, extrêmement vibrant, il est très proche des gens. Donc l'idée qu'on va devenir comme une sorte d'être insipide, c'est vraiment pas le fruit de la méditation.
Que será que andam suspirando pelas alcovas? Que andam sussurrando em versos e trovas? Que andam combinando no breu das tocas? Que andam nas cabeças, andam nas bocas? Que andam acendendo velas nos becos? Estão falando alto pelos botecos? E gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será, que será, que vive nas ideias desses amantes? Que cantam os poetas mais delirantes? Que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados? Está na fantasia dos infelizes? Está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será? Que todos os avisos não vão evitar. Porque todos os risos vão desafiar. Porque todos os sinos irão repicar. Porque todos os hinos irão consagrar. E todos os meninos vão desinvestar. E todos os destinos irão se encontrar. E mesmo o Padre Eterno que nunca falhar, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá.
Des gens faisant partie du système font eux aussi leur propre expérience maintenant. Exactement. Ils regardent la sous-culture ou la contre-culture et ils essaient d'en tirer quelque chose pour eux. Ici, en Californie, ce n'est plus de la contre-culture, c'est rentré au centre du système. Les gens continuent d'acheter des voitures, mais ils essaient bien sûr de les acheter plus petites, afin de ne pas utiliser trop d'essence. Et ils vivent dans des petites maisons bourgeoises, ils ont des emplois moyens, mais pendant leur temps libre, ils ne se précipitent plus pour s'acheter un canot à moteur juste pour zigzaguer sur le lac. Mais ils rejoignent des groupes de méditation transcendantale, par exemple. Un de mes amis qui est banquier pratique ça très sérieusement maintenant. Je les appelle les disciplines de transformation de la conscience. Elles ont beaucoup de succès parmi la classe moyenne dans cette région de la Californie et ce n'est plus quelque chose d'exceptionnel.
La Californie en 1972, Mathieu Ricard, et cette méditation transcendantale, qu'est-ce que c'est alors par rapport à... Il y a différentes sortes de méditation.
Alors la méditation, c'est comme si vous disiez à quelqu'un, je m'entraîne.
Oui.
Il y a bon quoi, du badminton, du rugby, c'est pas pareil, non? Donc l'entraînement de l'esprit, ça peut être aussi bien à la présence, à l'attention, ou à des comportements prosociaux comme la bienveillance, ou à l'équilibre émotionnel, ou à une sorte de façon de gérer mieux les pensées pour faire un antidote à la rumination. Mmh. Donc la méditation transcendantale, ça a attiré beaucoup de monde au départ, mais c'est un petit peu flou quand même comme
ouais,
système.
On pratique toujours d'ailleurs. Hein,
c'est oui, bien sûr.
Aux États-Unis d'ailleurs beaucoup. Hein.
Oui, oui, ça va, ça vient.
Ouais. Mais bon. Donc c'est pas une méthode que...
Bah, vous... Si vous voulez, il n'y a pas eu beaucoup d'évaluations scientifiques parce que ouais. C'est un peu trop vague. Si vous voulez, ce qu'on fait nous, c'est des états méditatifs très précis. Mmh. Soit c'est l'attention focalisée, soit c'est la bienveillance, soit c'est ce qu'on appelle un état de présence ouverte où on est absolument lucide, mais en même temps, on ne s'accroche pas à des choses particulières. Donc ça permet de les étudier.
Ouais.
Si vous dites « je médite », ça ne veut pas dire grand-chose.
Ouais. Alors, vous vous prêtez de bonne grâce à ces études depuis un certain temps maintenant, avec Antoine Lutz, par exemple, qu'on a reçu régulièrement dans cette émission. Il y a des photos où on vous voit avec des bardés de capteurs sur la tête.
En fait, maintenant, on fait beaucoup plus d'IRM que d'électroencéphalogramme, mais bon, c'est plus spectaculaire à voir.
C'est des séances qui durent combien de temps, alors, Wolfsinger?
IRM, normalement, une heure. Magnétoencéphalographie aussi, une heure à peu près.
Mais moi, j'ai fait des... Parce qu'on multiplie l'expérience, j'ai fait 12 heures de suite, 3 jours consécutifs.
Ouais.
Mais pas uniquement dans l'IRM, bien sûr. Mais c'est souvent, ils vous mettent le cobaye est mis à toutes les sauces.
Et comment vous ressortez de ces 12 heures? Alors justement, très facilement, parce que justement, vous avez une pratique très intense de la méditation.
Mais je me rappelle un de nos amis, c'est Jonathan Cohen, qui a un labo à Princeton. Il dit, je sais pas ce que ça va donner les résultats, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que ces méditants, ils ont de l'endurance.
Oui. Wolfsinger. C'est incontestable qu'un méditant pratiquant...
Là, je n'ai pas l'expérience avec une grande population de méditantes. Mmh. Là, je ne peux pas vous dire.
Les questions des auditeurs. En tout cas, Nathalie nous dit ceci. J'ai entendu que le Québec a rendu obligatoire des cours de méditation dès la première année de médecine, afin que la violence des études ne détruise pas les capacités empathiques des étudiants. En avez-vous entendu parler, Mathieu Ricard?
Oui, j'ai un ami qui est médecin, qui fait des stages justement, parce que si vous voulez, on leur apprend tout. Ouais. On leur apprend à rester 24 heures de garde. Et à la fin, ils souhaitent qu'une chose, c'est qu'il n'y a pas un autre patient qui arrive. Et donc, la compassion qui devrait être au cœur du serment d'Hippocrate n'est pas enseignée du tout.
Ouais.
Donc, il est vrai que quand on sait que la bienveillance est un remède à la détresse empathique, ça, Tania Singer, la fille de Wolf, l'a bien montré, ben, on comprend que ça soit nécessaire d'introduire ça dans le cursus.
Ouais. L'altruisme, la compassion, alors que nous avons naturellement pour nos proches, hein, pour nos amis, notre famille, l'idée justement, c'est de pouvoir l'étendre à une zone plus élargie, c'est ça ?
L'évolution nous a équipés avec cette bienveillance biologique à l'égard de nos proches et de ceux qui sont faibles. Mais on peut, sur cette base, étendre le cercle de notre compassion et c'est un des buts de la méditation, c'est un processus plus cognitif.
Ouais. Thierry nous dit, ce chemin n'est-il pas plus facilement accessible lorsqu'on vit retiré de toute implication familiale et professionnelle, source de soucis et d'anxiété au quotidien?
D'un certain côté, oui, si vous voulez faire 8 heures de méditation par jour, vous êtes mieux dans un méditation au Népal. Mais l'idée, c'est que si 20 minutes par jour, comme on fait 20 minutes d'exercice physique 4 fois par semaine pour être en meilleure santé, pour augmenter le système immunitaire, si ça va augmenter... Donc pour les 23 heures et 10 minutes qui restent, y compris votre sommeil, la qualité de vos relations à autrui, la façon de gérer le stress, ça semble un bon investissement. Donc si c'est le cas, si vous voulez, il faut voir les bienfaits et le temps qu'on met dans tout cela et quels sont les bienfaits qu'on peut en retirer.
Vous répondez d'ailleurs dans le livre à cette critique parce qu'on accuse parfois les ermites justement et les méditants d'égoïsme, voire d'indifférence.
Si le but c'est de se débarrasser de l'égoïsme, hein, c'est un peu juste comme raisonnement. C'est comme si on vous disait, quand vous construisez un hôpital, les travaux de plomberie, d'électricité, de ciment, ça sert à rien, mais quand l'hôpital est prêt, ça donne quand même un outil plus puissant que d'aller opérer dans la rue.
Wolfsinger, Larry sur Twitter demande, quels sont les circuits neuronaux modifiés justement par la méditation?
Je crois que ça dépend beaucoup de la de la façon de la méditation. Donc, comme a dit
le Mathieu, type de méditation.
Le type de méditation. Il y en a plusieurs. Donc, si on entraîne l'attention, ça seront des aires frontales et pariétales. Mm-hmm. Pour la compassion, ça serait plutôt des aires du système limbique. Mais là, on a moins d'évidence en ce moment.
Mm. Il y a aussi des systèmes qui ont à voir avec l'amour parental, avec des émotions positives quand même.
Oui. Donc tout ça, on peut étudier des choses aussi finement.
Ah ben c'est ce qu'on fait, ouais, avec l'IRM, ouais, ouais, parce que sinon c'est n'importe quoi. Il y a une signature quand même très différente. Par exemple, Tania, la fille de Wolf, a montré que la signature des réseaux neuronaux pour l'empathie était différente de la compassion. Et ça, c'est crucial quand on veut remédier au burn-out chez les personnels soignants et les travailleurs sociaux.
La rumination, justement, Mathieu Ricard, c'est précisément le contraire de la méditation, au fond.
La rumination, c'est d'être constamment à partir d'une pensée qui en devient mille, qui envahit votre cerveau et qui ne vous laisse pas un instant en paix, il y a une distorsion de la réalité, une exagération, une superimposition. Et on sait que la rumination est un des facteurs importants
de la dépression,
comme cause de dépression.
De dépression,
oui,
ouais,
mais on n'était pas d'accord. Parce que ça se peut aussi que la rumination, ça soit un symptôme de la dépression. Et au moins dans la médecine occidentale, on encourage les malades de ruminer, de trouver la cause de leurs problèmes, et pas de le refouler et se mettre en équilibrium et dire bon, tout va bien. Ici, au fond, ça va pas bien. Donc ça, la psychanalyse, elle poursuit le chemin opposé.
Ouais. Mais justement, il y a une petite critique de la psychanalyse quand même.
Ceci dit, des gens comme Zinder Segal ont montré que si on entraîne par les thérapies cognitives basées sur la pleine conscience à être moins la proie des ruminations, c'est un facteur de protection contre les rechutes de la dépression. Une protection de 40% qui est aussi puissante quand même que...
Mais est-ce que c'est vraiment prouvé?
Ah oui, maintenant c'est...
Avec des grandes cohortes.
30 ans... Aussi bien une étude en Suisse,
Attention, le scientifique est toujours là.
Oui, il est très prudent. Et là, justement, récemment, à un congrès à San Diego, il y a 1200 scientifiques. Zinder Segal a présenté la somme de 30 ans de recherche. Il semble que malgré tout, ça soit assez robuste comme résultat.
Alors, vous dites à quel point le bouddhisme est proche des thérapies cognitives. En tout cas, vous avez des points communs. Et d'ailleurs, il y a une petite critique de la psychanalyse quand même dans le livre. Précisément parce que certains vous disent que la psychanalyse n'est que rumination du passé. Et puis, et moi.
Ben, c'est un peu ça, les résultats. Aussi montre que ça a quand même une sorte d'exacerbation de l'ego. Souvent, on a montré que ça donnait des rapports plus difficiles avec vos proches. Ouais. C'est pas forcément évident. Ouais. D'autre part, l'idée que au fond de la conscience, il y a une espèce de nuage obscur, etc. Pour un méditant, le cœur de la conscience, c'est quelque chose d'une présence éveillée extrêmement lucide, extrêmement claire. C'est comme vous disiez, des ondes d'ombre au milieu du soleil, quoi. Ça tient pas, pour un méditant, ça ne tient pas la route.
Ouais. Volzinger, justement, sur la conscience, les neurosciences ont encore beaucoup de choses à faire pour essayer d'éclaircir, justement, la notion de conscience.
Oui, mais c'est devenu un champ de recherche très, très fertile ces dernières années, parce qu'on a des outils maintenant pour enregistrer l'activité cérébrale chez l'homme. Et... Donc, on connaît pas mal des mécanismes qui sous-tendent l'état conscient.
Ouais.
Ça, on comprend assez bien déjà.
Ouais. Mathieu Ricard, pour le bouddhisme, la nature ultime de la conscience, elle est au-delà des mots, elle est au-delà des concepts,
oui,
des symboles.
Surtout, si vous voulez, la troisième personne étudie des choses de l'extérieur. Si vous allez au fond de l'expérience pure, vous arrivez à l'expérience pure. On m'a dit que j'avais un cerveau, j'en suis très content, très rassuré. Ceci dit, quand je regarde mon expérience pure, cette présence éveillée, parfaitement lumineuse et claire que je vois au fond de moi-même, j'arrive pas à mes neurones, j'arrive pas à mon cerveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation. Simplement, il y a un aspect phénoménologique que la conscience, en fait, précède tout autre.
Ouais. Alors, la science a encore du mal à nous donner des réponses.
Pour le bouddhisme, il faut quand même dire que la conscience est la force primaire. Et tout ce qui suit, les activités neuronales, etc., c'est secondaire.
Elle précède toute chose, voilà.
Tandis que pour un neurobiologiste, c'est clair, et il ne peut pas dire autrement, qu'il y a d'abord les mécanismes neuronaux, les processus neuronaux, qui, eux, font émerger la conscience. Et ce n'est pas dans l'autre, c'est pas l'inverse. Donc, et là, on ne peut pas faire des compromis, nous.
C'est ça, on a besoin encore beaucoup de travail par des scientifiques. Cerveau et méditation, dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences. Mathieu Ricard et Volzinger, vous étiez nos invités, c'est aux éditions Alary. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.